Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque notre Seigneur institue l'Eucharistie, il dit « Prenez et recevez », c'est ce que nous venons d'avoir dans le chant de communion, « Prenez et recevez, ceci est mon corps, mangez-en tous ». Après ça, il dit « Prenez et recevez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, livré pour vous, prenez-en tous ». Autrement dit, il ne sépare pas dans la Sainte Eucharistie le sacrifice et le repas. Le sacrifice de notre Seigneur est un repas, et le repas eucharistique est un sacrifice. C'est très important parce que une piété peut être trop facile à séparer le sacrifice du sacrement. On en est venu à croire qu'il y avait d'un côté le sacrifice de la messe qui reproduit le sacrifice du calvaire, et de l'autre côté, un sacrement qui contient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous recevons par la communion. Les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles parce que du coup, lorsque il s'agit de la messe, nous pensons que nous y participons uniquement en participant au rite, comme nous le ferions pour une bénédiction du Saint-Sacrement, comme nous le ferions pour l'office de vêpres, etc. Et nous savons quand même, heureusement, que dans ce rite, il y a aussi la communion, et nous pensons que la communion nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses grâces. Et la conséquence, c'est un certain égoïsme. À savoir que nous recevons notre Seigneur en pensant à nous. Je ne dis pas que nous le faisons toujours, et heureusement, les saintes âmes sont guidées par Dieu pour faire les choses correctement. Malgré tout, nous entendons très souvent « J'ai besoin de la communion ». C'est-à-dire que nous pensons à nous pensons aux grâces dont nous avons besoin, et nous ne mettons pas en premier l'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que cette union a quelque chose de mystique, et pourtant, c'est bien le but de la vie, c'est bien la nature de la vie chrétienne, et ce n'est pas parce que cette réalité est difficile à exprimer qu'il faut la cacher aux fidèles en donnant des explications sur la messe qui sont simplifiées à l'extrême et qui du coup finissent par être fausses. La conséquence que nous avons, nous la voyons aujourd'hui après que la messe a été complètement défigurée. Monseigneur Lefebvre nous a demandé d'être fidèles à la messe de toujours, et beaucoup, beaucoup de traditionalistes ont compris être fidèles au rite de toujours. Bien sûr qu'il faut être fidèle au rite de toujours, mais ça ne suffit pas. Et c'est la gloire de Monseigneur Lefebvre que de nous avoir expliqué dans ses conférences spirituelles le sens profond de la messe. Notre Seigneur dit « Prenez et mangez-en tous. Ceci est le sang de l'Alliance qui est répandu pour vous. » Vous avez donc trois aspects. Vous avez le sang répandu en sacrifice. vous avez l'alliance avec Dieu et vous avez le sacrement et la communion. Pardon, et vous avez la communion. Le tout est sacramentel, excusez-moi. Vous avez le sacrifice, l'alliance et la communion dans la grâce. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il étudie l'Eucharistie, pose une question. Quels sont les noms de l'Eucharistie ? C'est une question sur laquelle on passe un petit peu vite en disant, après tout, que ça s'appelle l'Eucharistie ou messe ou sacrifice, qu'est-ce que ça change ? Pourtant, c'est très important. Parce que les noms désignent la réalité. Et il dit, la Sainte Eucharistie désigne le passé, à savoir la mort de Jésus sur la croix. Elle désigne le présent, à savoir l'union des chrétiens avec Dieu le Père, et l'offrande que Jésus fait de lui-même à Dieu le Père. Et troisièmement, elle désigne la gloire du ciel. La gloire du ciel qui nous sera promise, qui nous est promise et qui nous sera donnée en récompense. Alors reprenons cela. Lorsqu'il parle du sacrifice, et saint Augustin dit « Le sacrifice est toute œuvre bonne qui est faite pour vivre en union avec la Sainte Trinité, car là est le but de notre vie. Pour vivre dans la sainte communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il reprend là l'Écriture sainte, car tel est le but de notre vie. » Il est évident qu'il y a dans notre vie des choses essentielles qui nous unissent au but, qui nous tournent vers le but. Il n'y a pas dans notre vie que des moyens. Et le but de notre vie, non seulement plus tard, mais dès ici-bas, c'est l'union au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la vie en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsqu'on fait cela, on fait un sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'on entre dans le sacré. On entre dans le sacré de Dieu. Nous avons pris l'habitude de considérer que le sacrifice est nécessairement une chose pénible. Et nécessairement quelque chose que nous donnons à Dieu, parce qu'il est le souverain maître, chose qui disparaît. Et nous voyons surtout l'aspect de disparition. Mais le sacrifice est avant tout une consécration au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et si quelque chose disparaît, c'est parce qu'il y a sur terre des choses qui sont vouées à disparaître, y compris notre pauvre vie mortelle, y compris nos conditions de vie ici-bas, qui sont vouées à disparaître pour la vie éternelle qui, elle, ne disparaîtra jamais. Et si cela nous est pénible, c'est le signe que nous sommes attachés aux choses d'ici-bas plus qu'aux choses de Dieu. Et que donc il va falloir nous en détacher, et effectivement, le sacrifice nous détache de mauvaises attaches pour nous faire entrer en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce que le sacrifice de la croix opère, et c'est ce que le sacrifice de la messe opère, et c'est ce que la communion et la Sainte Eucharistie opèrent. C'est ce que le sacrifice de la croix a opéré. Il nous a détachés, il a rompu les liens. Et Jésus-Christ se consacre totalement à son Père. « Père, je remets mon âme entre vos mains. » C'est ça, quasiment sa dernière parole sur la croix. La dernière, c'est « Tout est consommé. » C'est-à-dire que ça y est, il n'y a plus rien à faire après. Il remet son âme entre les mains du Père. Et il nous demande, nous aussi, de remettre notre âme entre les mains du Père. Et parce que le péché nous en empêchait, il nous a délivrés du péché. Lorsque nous participons, lorsque nous voulons entrer dans, ce que notre Dieu nous demande, la messe a été faite pour cela. Mais la messe, nous nous unissons à la messe qui reproduit, c'est le même sacrifice, il n'y a qu'un seul sacrifice, enseignement du Concile de Trente, il n'y a qu'un seul sacrifice. C'est la même victime, le même prêtre, la même offrande. Il n'y a pas plusieurs offrandes, il n'y en a qu'une. Seul, le mode diffère. Parce que la messe est un sacrement, le pain, les apparences du pain et du vin sont le signe de la réalité sacramentelle qui est cachée sous les apparences, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur avec son corps et son sang séparés. Et nous allons nous consacrer à Dieu, et pour cela, nous recevons le corps et le sang avec Jésus-Christ réellement présent dans l'un et l'autre, avec son âme et sa divinité. Ce qui fait que la seule manière réelle de participer au Saint-Sacrifice de la messe, c'est la communion. Vous allez me dire, mais alors ceux qui ne communient pas. Saint Thomas, avec toute sa finesse d'analyse, dit, il y a dans un sacrement les signes, la grâce et la réalité qui fait le lien entre les signes et la grâce. Les signes, c'est les apparences du pain et du vin. La grâce, c'est la vie en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la réalité, c'est la communion à la présence réelle, c'est la présence réelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ présent sur l'autel auquel nous communions en le recevant. Et on peut s'unir soit spirituellement, soit sacramentellement. Il est évident que l'union sacramentelle est celle qui porte le plus de fruits. Elle suppose évidemment l'union spirituelle, car celui qui communierait sans être en état de grâce, ou qui communierait sans avoir l'intention droite, ou qui communierait sans chercher à s'unir à Dieu, ne recevrait pas les grâces. Ce serait un sacrilège. Mais on peut aussi s'unir spirituellement, parce que Dieu donne les sacrements pour nous aider, non pas pour nous limiter. Je reviens un peu sur cette vérité. Vous savez très bien, mes bien chers frères, qu'un sacrement doit être appliqué. Il viendrait à l'idée à personne de présenter un enfant à un rite du baptême sans que l'eau coule sur son front, parce qu'on ne dirait pas qu'il a été baptisé, même s'il a assisté au baptême d'un autre. Il viendrait à personne d'assister au sacrement de pénitence sans recevoir l'absolution. Eh bien, de même, il devrait ne venir à l'idée à personne d'assister à la messe sans communier. Parce que si on ne communie pas, le sacrement n'est pas appliqué. Et de même, si on reçoit l'extrême onction sans recevoir l'extrême onction, ben on ne reçoit pas l'extrême onction. Et si on ne communie pas à la messe, le sacrement n'est pas appliqué. Vous allez me dire, le sacrifice demeure, c'est le sacrifice de la croix qui demeure, bien sûr, et on peut s'y unir spirituellement. Alors il est vrai que pour ceux qui n'ont pas le baptême, il peut y avoir le baptême de désir. Il est vrai que pour ceux qui n'ont pas le sacrement de pénitence, il y a la contrition parfaite que Dieu peut donner et qui efface les péchés. Et il est vrai qu'il peut y avoir la communion spirituelle. Dieu donne la grâce, il inspire de nous unir à son sacrifice, et à ce moment-là, il donne la grâce. Vous êtes privé de la communion sacramentelle, il va y avoir deux raisons pour lesquelles on est privé de la communion sacramentelle. Deux raisons. Une raison physique. Aujourd'hui, le confinement. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre. Ou le fait que la messe est trop loin. Il faut bien voir que si la providence divine nous prive de la communion sacramentelle, dans ces cas d'impossibilité physique, ce n'est pas pour limiter ses dons, mais pour nous donner mieux, c'est-à-dire nous montrer qu'au-delà du sacrement, nous devons avoir une union intérieure avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quelquefois, il est bon d'être privé du sacrement pour réfléchir au sens du sacrement et surtout pour supplier Dieu de nous donner la grâce, lui qui est tout-puissant, donner la grâce au nom de la charité, au nom de l'amitié qu'il a mis entre lui et nous. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous pouvons être privés de la communion, c'est une raison morale. Par exemple, une infirmière qui est près de ses malades, une maman qui est près de ses enfants malades. Et puis aujourd'hui, une raison, je ne parle pas du confinement, je parle des épreuves de l'Église. Aujourd'hui, la fidélité à Dieu qui nous empêche de nous accoquiner avec les ennemis de Dieu, de nous rendre complices des ennemis de Dieu, qui nous oblige à chercher la pureté de la foi, à chercher la pureté de la charité et de l'amour de Dieu, pureté qui est souillée dans l'Église moderne, avec une charité qui devient humaine, qui devient pour notre temps, qui devient pour le monde d'ici-bas. Et lorsque Dieu permet et même nous demande de garder la pureté de la charité, si nous sommes pour cela privés de la communion, ce n'est pas pour nous donner moins que Dieu le permet, c'est pour nous donner plus. Et j'en arrive à la conclusion de ce sermon. Pourquoi nous donner plus? Parce que lorsque nous avons communié, nous vivons dans la sainte communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont vivants. Nous y sommes entrés. Nous y sommes entrés par le baptême. Nous y sommes entrés par la première communion. Nous y sommes de nouveau entrés et de plus en plus profondément par toutes les communions qui ont suivi. C'est une réalité. Elle ne disparaît pas lorsque le sacrement disparaît. Cette vie intérieure qui est en nous ne disparaît pas lorsque le sacrement disparaît. Et cette vie intérieure, comme toute vie, elle produit du fruit, le fruit de la charité, le fruit de l'amitié avec Dieu. Il faudra que je vous fasse d'autres sermons sur l'amitié avec Dieu. C'est très important cela. Parce qu'on n'ose pas croire que Dieu soit un ami. Et cette amitié avec Dieu nous continue à nous faire vivre. Et justement, la privation de communion sacramentelle ne nous prive pas de la sainte communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au contraire nous incite à aller plus loin dans cette communion, intérieurement, spirituellement, avec la grâce de Dieu que nous possédons déjà. Et voilà pourquoi, dans la liturgie d'aujourd'hui, l'Église nous fait lire cet évangile très important. Celui qui garde ma parole ne mourra pas. Nous sommes en opposition, notre Seigneur est en opposition avec le peuple juif et qui est le serviteur du démon. Les mauvais juifs sont les serviteurs du démon, car il y a le bon juif, bien sûr, la Sainte Vierge, Saint Joseph, les apôtres. Mais les mauvais juifs sont les serviteurs du démon. Ils sont les complices du démon. Et c'est la lutte. Et notre Seigneur dit, celui qui gardera ma parole, c'est-à-dire celui qui me sera fidèle, celui-ci ne mourra jamais. Et ses auditeurs l'ont très bien compris. Ses auditeurs ont très bien compris ce dont il s'agissait. Ils ont compris que notre Seigneur était Dieu. Ils ont compris que c'était par lui qu'on allait à Dieu. Et comme ils refusent cela, ils veulent le tuer, mais son heure n'est pas venue. Alors, mes bien chers frères, vous qui n'avez pas la communion sacramentelle, vous pouvez faire la communion spirituelle. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à vous unir à Dieu par Jésus-Christ, et vous pouvez avoir l'aide de la liturgie, mais la liturgie n'est qu'une aide, aussi bien si vous êtes présent dans l'Église que si vous êtes à des milliers de kilomètres. Dans l'Église, la liturgie n'est qu'une aide. Ce n'est pas parce que vous avez chanté la messe que vous avez communié à notre Seigneur, que vous avez communié à Dieu. Parce que vous avez chanté la messe, vous vous êtes préparé à la communion. Et bien de même, à des milliers de kilomètres, si vous vous unissez spirituellement aux messes qui sont célébrées, si vous vous unissez spirituellement au saint sacrifice de la croix, parce que 2000 ans de distance ne sont rien pour Dieu, eh bien, vous vous préparez à et vous renforcez en vous l'union à la Sainte Trinité. Ce qui fait que une des meilleures communions spirituelles, c'est le chemin de la croix ainsi que la méditation du rosaire. Je n'ai pas dit seulement la méditation des mystères douloureux, j'ai dit la méditation du rosaire. Pourquoi? Parce que la communion sacramentelle ne nous unit pas qu'à la passion de Jésus-Christ, elle nous unit à Jésus-Christ incarné, mort et ressuscité. Et le rosaire, par les mystères joyeux, unit notre vie, dirige notre vie vers Dieu. Par les mystères douloureux, le rosaire nous unit à la mort de Jésus. Et par les mystères glorieux, elle nous unit à Jésus ressuscité qui vit dans la gloire de son Père. Alors que vous êtes privé de messe et de communion, soit par nécessité physique, soit par nécessité morale à cause du drame dans l'Église, je vous invite à réciter chaque jour votre rosaire et à faire le chemin de la croix le vendredi et même le dimanche. Au pied de la croix, vous trouverez la Très Sainte Vierge. Elle vous accompagnera. Dans la communion spirituelle, vous trouvez nécessairement la Très Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.